Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On s'alarme souvent de l'invasion du cinéma américain en Europe. Et donc en France. On a dû en parler depuis la guerre de 14. Mais bien avant la guerre de 14, le cinéma français, les metteurs en scène, les producteurs français, étaient partis à la conquête de l'Amérique. À l'occasion de la première traversée transatlantique du paquebot France, l'émission de René Régent, Cinéma pour les ondes, retraçait les aventures artistiques et commerciales des représentants du cinéma français aux États-Unis. René Clair, Maurice Chevalier, en VF et en VO, Jean Cocteau participait à l'émission dans laquelle il était également question, brièvement, de Jean Renoir, Julien Duvivier, Jean Gabin, Michel Morgan, qui, plus tard, avaient conquis ou tenté de conquérir le public et le marché américain. Dans la deuxième partie de cette émission, place était faite au film américain d'un metteur en scène français, film au terme duquel on allait apprendre que l'amour allait vaincre les forces maléfiques. Le titre du film, « Ma femme est une sorcière », bien sûr, signé René Clair, évidemment. Première diffusion, le 3 février 1962.
À New York. Depuis que le cinéma existe, on se dispute en France pour savoir si on doit le considérer comme un art ou comme une entreprise commerciale. Eh bien, c'est certainement le genre de discussion byzantine qui ne se produira jamais aux États-Unis, car ici, depuis longtemps, on estime que art et business peuvent faire bon ménage, et même mieux, doivent faire bon ménage. Depuis un certain temps, le cinéma américain a changé son orientation, c'est indéniable. Car pour faire concurrence au petit écran, il a été obligé d'élargir le sien. Et nous avons assisté à l'éclosion des ramas en tout genre. Cinérama, panorama, etc. Bientôt à New York, un écran de dimension normale, sur lequel on projetera un film en noir et blanc, semblera aussi anachronique qu'un vieux DC-3 comparé à un Boeing à réaction. En dehors du Nouveau Testament, qui fait toujours fureur chez nos amis américains, les westerns et les thèmes historiques ont la faveur du public, pour la simple raison qu'ils prêtent facilement à des mises en scène somptueuses et que les Américains ont toujours la nostalgie de l'époque des pionniers. Mais petit à petit, nous risquons de voir disparaître des affiches de cinéma de New York les films à caractère psychologique. Car il faut reconnaître que l'étude des caractères, c'est évidemment le terrain de prédilection de la télévision. Comment les Américains vont-ils réagir à la projection d'un film sur Lafayette? Retrouveront-ils sur l'écran l'image d'Épinal de leur manuel d'histoire? Il faudrait évidemment avoir vu le film pour répondre, ce qui n'est pas mon cas. Mais faire coïncider la première mondiale du film avec le voyage inaugural du France me semble être une attention à laquelle les Américains ne devraient pas être insensibles.
Dans la série des émissions consacrées à la présence française aux États-Unis et diffusées à l'occasion du voyage inaugural du paquebot France, la radiodiffusion et télévision française vous prie d'écouter 60 ans de cinéma français aux États-Unis, une émission de Roger Régent avec la collaboration de Jacqueline Adler. Vous pourrez entendre, au cours de cette émission, des interventions de Maurice Chevalier, René Clair et Jean Cocteau de l'Académie française, Kira Appel, ainsi que des extraits de Gigi et Ma femme est une sorcière. Musique extraite des films Les Innocents de Paris, Parade d'amour, Un Américain à Paris. Les commentaires de Roger et Jean sont dits par Robert Martin. Raconter l'histoire de la présence française en Amérique dans le domaine du cinéma, c'est remonter jusqu'à l'invention même des frères Lumière. Bien avant la naissance de Hollywood, en effet, les Français étaient là. René Clair nous parle de cette marche vers l'Ouest, entreprise à cette époque par quelques Français.
Dans un art et un métier d'essence internationale comme le cinéma, il est normal que les échanges se produisent d'une manière régulière entre différents pays. Les échanges qui se sont produits entre la France et les États-Unis sont historiquement intéressants. C'est ainsi que, comme on l'a déjà dit, les premières sociétés de production américaines étaient en réalité inspirées, si ce n'est dirigées, par des Français, puisque à la suite des entreprises et de Lumière, et surtout de Méliès, des véritables formations françaises contribuèrent à fonder l'industrie de production américaine. Non seulement Méliès, dont le frère Gaston a dirigé une firme assez importante jusqu'à la veille de la guerre de 14, mais aussi les principales maisons, Gaumont, Pathé, Éclair, avaient là-bas ce que l'on peut appeler, en se rappelant l'histoire des premiers arrivés aux États-Unis, des comptoirs cinématographiques. Ces comptoirs cinématographiques se sont développés d'une telle manière que même quand ils ont été abandonnés par leur directeur français, certains noms sont restés, c'est-à-dire que Arkeo s'est appelé pendant longtemps encore Pathé Arkeo, par exemple. Et je crois même qu'il y avait des traces du nom d'Éclair. Donc si au début, c'est l'influence française qui a fortement aidé au développement du cinéma américain et aidé les Américains à trouver leur style propre, en revanche, à partir de 1915, nous dirons peut-être même un petit peu avant, c'est l'industrie américaine, et par conséquent l'art du cinéma américain, qui se développant et profitant, si l'on peut dire, du fait que la production française était ralentie, si ce n'est annihilée pendant la guerre de 14-18, c'est cette industrie américaine qui nous a envoyé ses produits et qui a commencé à influencer d'une manière directe et considérable l'esprit du cinéma français. Je dois dire que pour ma part, la plupart des choses que j'ai apprises en comédie ou en comique venaient de cette grande période que j'ai appelée plus tard la grande époque du cinéma comique américain, qui naturellement s'inspirait des premiers comiques français, mais y avait apporté des qualités supplémentaires qui ont donné les chefs-d'œuvre que vous connaissez, les chefs-d'œuvre de cette école, dont je crois l'éclat était le plus vif entre 1915 et les dernières périodes du film muet.
En effet, ainsi que vient de le rappeler René Clair, Auguste et Louis Lumière entreprirent dès les premiers mois de 1896 la conquête de l'Amérique. Moins de 6 mois après la séance historique du Grand Café, deux Français, Promio et Mesguich, étaient envoyés à New York par Auguste et Louis Lumière pour prendre des vues et montrer aux foules terrifiées par un tel spectacle l'entrée d'un train en gare de la Ciotat. Mais ces envoyés spéciaux du cinéma français furent bientôt victimes avec d'autres de la politique protectionniste que les États-Unis instaurèrent dans leur industrie nationale. Il fallut donc abandonner le domaine des affaires et assurer la présence française par d'autres moyens. Comme toujours, dans des cas semblables, c'est vers l'art que l'on se tourne et chacun y trouve son compte. À cet égard, c'est notre compatriote Louis Gasnier qui, le premier, installa dans le cinéma américain une solide tête de pont française, et cela bien avant la guerre de 14. Il fut bientôt suivi par des hommes tels que Léon Spéret, Émile Chautard, Albert Capellani, Maurice Tourneur. Mais il lui revient la gloire d'avoir été l'un des pionniers du cinéma américain lui-même, d'avoir découvert et inventé Pearl White, d'avoir enfin réalisé les 22 épisodes des Mystères de New York qui furent le plus grand succès mondial du cinéma depuis sa naissance et mirent à la mode le film à épisodes. Après 1918, le cinéma français avait trop à faire dans sa propre maison pour prétendre imposer sa présence au dehors, et particulièrement en Amérique, où Hollywood se développait à une allure vertigineuse et commençait à rayonner sur le monde entier. Quelques Français, des acteurs surtout, travaillèrent pourtant dans cette ville qui était en train de devenir le temple du cinéma. Charles de Rochefort, que l'on appelait là-bas Chas de Roche, Maurice de Canonge, qui pour des raisons euphoniques devint Maurice Canon, et le plus glorieux de tous, Max Linder, qui fit ses premiers films américains dès 1917. Enfin, un jeune journaliste envoyé par un magazine parisien pour faire un reportage sur la vie cinématographique arrive à Hollywood en 1921. Il y est toujours. Depuis 40 ans, il a réalisé près de 200 films, après avoir été le chef de publicité de Douglas Fairbanks, de Mary Pickford, de Valentino. Il s'appelle Robert Floret et tourne aujourd'hui des bandes pour la télévision américaine. Le premier film qu'il réalisa à Hollywood avait pour titre « Vie et mort d'un figurant de Hollywood ». Dans leur histoire du cinéma, René Jeanne et Charles Ford racontent que l'idée de ce film vint à Robert Floret en écoutant un jour « Rhapsody in Blue » de George Gershwin, lequel devait par la suite imposer une présence française permanente dans son pays avec son fameux poème symphonique « Un Américain à Paris » dont le cinéma s'empara 30 ans plus tard. En 1951, en effet, Vincente Minnelli tourna une comédie musicale et dansante portant le titre de Gershwin avec Gene Kelly et Leslie Caron. La naissance en Amérique du cinéma parlant, en 1927, devait amener bientôt à Hollywood un important commando français. Celui qui le premier ouvrit toutes grandes les portes, ce fut Maurice Chevalier. Il incarnait alors, pour les Américains, et il l'incarne toujours, le typique Parisien de Paris. Comment il fut engagé pour aller tourner aux États-Unis l'un des premiers films parlants, il se le rappelle comme si cela s'était passé hier.
Quand je suis parti en Amérique, cela était venu d'une façon tout à fait curieuse et presque amusante. C'était l'époque où, déjà, c'était 1927 ou 28 au début de l'année, il y avait beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers à Paris, tellement que dans la revue que je jouais au Casino de Paris, j'avais deux chansons en anglais que j'avais chantées pour la première fois de ma vie. Et devant un public français, j'avais même craint à un moment de déplaire à la galerie en chantant ces choses rythmées et en langue anglaise, mais il y avait tant d'étrangers dans la salle que je pensais que c'était juste de les servir aussi un peu. Or, ces deux chansons, que je chantais en anglais avec de très bons rythmes américains, et un très bon orchestre d'ailleurs, ont un soir intéressé un grand producteur qui était venu voir la revue et qui s'appelait Lasky, qui était le directeur du Paramount en Amérique, et qui est venu me voir et m'a demandé si je parlais anglais aussi clairement que je le chantais. J'avais débuté dans Innocent Paris, qui s'appelait en anglais Innocence of Paris, et qui s'appelait en français La Chanson de Paris, parce que de tous mes films, il avait été décidé après ça qu'on en ferait une version française et une version américaine. Alors, il y a d'abord eu Innocence of Paris, dans laquelle il y avait Louise, cette chanson qui a été si populaire, et cinq autres chansons, et tout un rôle de Gavroche que je faisais, qui a tellement bien marché dans toute l'Amérique.
L'Amérique entière chanta Louise, puis la France. Et Maurice Chevalier, qui n'avait jamais eu jusqu'alors un nom cinématographique, devint du jour au lendemain l'une des plus grandes vedettes mondiales de l'écran.
Wonderful. Oh, it's wonderful to be in love with you. beautiful, you're so beautiful. You haunt me all day through. Every little breeze seems to whisper Louise. Earth in the trees seems to twitter Louise. Each little rose tells me it knows I love you, love you. Every little beat that I feel in my heart seems to repeat what I felt at the start. Each little sigh tells me that I adore you, Louise. Just to see and hear you is joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder it is. Can it be true? Someone like you could love me, Louise.
Après cette charmante Louise, les airs de Parade d'amour, le fameux film de Lubitsch, valurent un succès plus grand encore à Maurice Chevalier, ambassadeur de Paris auprès de cet empire du cinéma que représentait alors Hollywood.
Toutes les femmes dont je me souviens avaient quelque chose de bien. Un tout petit détail de rien du tout qui me plaisait beaucoup. Mais tous ces jolis souvenirs du passé par vous sont effacés, surpassés. Les yeux de Lisette, le sourire de Rosette, la pudeur de Suzette, je les retrouve en mieux. Le menton de Delphine, le charme de Joséphine, le piment de Pauline, c'est merveilleux. Charmant trésor, vous possédez encore la gorge divine de ma chère Valentine. Vous êtes pour moi plaisir sans égard, mon cocktail d'amour, mon idéal.
En cette époque du début du film parlant, c'est toute une colonie française qui prend pied sur le continent américain et s'installe à Hollywood. Les départs et les arrivées des trains transatlantiques à la gare Saint-Lazare sont le théâtre du petit ballet traditionnel des photographes et des journalistes. Tous les paquebots ancêtres du France qui font le Havre-New York ont à bord une enclave cinéma. Jacques Feder, à qui sera réservé l'honneur de mettre en scène le dernier film muet de Greta Garbo, et Françoise Roset crée à Beverly Hills un foyer actif d'art et de pensée français. Claude Autant-Lara étudie et met au point dans les studios de Hollywood un procédé technique nouveau qui permettra d'internationaliser le cinéma parlant. On appellera cela plus tard le doublage. 10-20 acteurs tournent sous le soleil de Californie des versions françaises de films américains. Charles Boyer, André Luguet, André Berlet et combien d'autres. Les versions françaises, bientôt abandonnées, des vedettes parisiennes vont jouer en anglais dans des films exclusivement américains. Fernand Gravet, Daniel Darieux, Annabella. Et puis, c'est la guerre. De nombreuses personnalités du cinéma français émigrent à Hollywood. 3 de nos plus célèbres metteurs en scène vont entreprendre là-bas une carrière américaine. René Clair, Jean Renoir, Julien Duvivier. Des vedettes, fuyant elles aussi l'occupation, se fixent en Californie. Michel Morgan, Jean Gabin, Victor Francen, Charles Boyer, Dalio. Nous avons demandé à René Clair de nous parler des échanges artistiques entre nos deux pays et de la présence française qu'il avait trouvée à Hollywood lorsqu'il vint pour y travailler à la fin de 1940. Des films comme « Sous les toits de Paris », « Le million » et « À nous la liberté » avaient eu un grand retentissement aux États-Unis. René Clair, en arrivant en Amérique, retrouva-t-il la trace d'une influence qu'auraient pu exercer ses films sur le cinéma américain?
Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Je crois qu'historiquement, c'est vrai si je lis les histoires du cinéma américain. Mais en réalité, quand je suis arrivé aux États-Unis pour y travailler, j'étais déjà venu, mais quand je suis arrivé pour y travailler, c'était en fin 40. Et à ce moment-là, le bruit qu'avaient fait certains de nos premiers films parlants ou sonores était déjà un petit peu assourdi, parce que les premières réalisations de films sonores et parlants ayant une originalité ou faisant un apport quelconque, étaient de 1930-1931, et vous savez, au cinéma, tout va très vite. Si influence il y a eu, elle était déjà complètement absorbée, faisait partie du fond commun du langage cinématographique américain. Mais ce qui est intéressant de noter dans ces histoires d'influence réciproque, c'est le côté boomerang de la chose aussi. C'est parfois, vous voyez, une influence américaine venir en France et réinfluencer l'Amérique. On a vu ça, par exemple, avec les films des jeunes gens d'aujourd'hui. Il est incontestable qu'ils ont été extrêmement impressionnés par des films américains. Ils ont absorbé cela, l'ont traduit à leur manière et renvoyant ce produit, n'est-ce pas, de deuxième fabrication, si l'on peut dire, sans vouloir dénigrer le moins du monde, aux États-Unis, obtiennent des succès par des choses qui semblent neuves aux Américains, alors que nous, le voyant du point de vue français, nous, enfin, vous comprenez, il s'est passé d'ailleurs en littérature la même chose. Combien de romans américains, tout de suite après la dernière guerre, ont été des succès en France d'originalité, alors que pour ceux qui connaissaient un petit peu mieux la littérature américaine, on savait très bien que c'était l'influence, par exemple, d'un Maupassant qui, s'exerçant 60 ou 100 ans après, ou 80 ans après, aux États-Unis, se transportant dans les pays du Sud, par exemple, prenons des noms américains, revenait en France et faisait l'admiration des critiques et littérateurs français qui ne s'apercevaient pas que c'était du Maupassant américanisé.
Depuis 1945, la France n'a plus cessé d'être présente à Hollywood ni dans le monde interne du cinéma américain, quel que soit le lieu choisi pour son activité, Los Angeles, Rome, Londres, Paris même, où l'on tourne de nombreuses productions américaines. Encore une fois, Maurice Chevalier a tendu une grande arche de 8000 km entre Paris et les studios de Californie. Avec Gigi, la France est doublement présente sur les écrans américains. Colette, d'abord, dont l'influence sur les jeunes dans le monde entier est immense. Paris, enfin, avec ses fiacres, ses arbres, Maxim's et toute sa belle époque, dont Maurice Chevalier est le symbole pour l'Amérique tout entière. Dans la comédie musicale que Vincente Minnelli, en 1958, a tirée très librement du roman de Colette, Maurice Chevalier chante ses couplets.
Lorsque je vois une fillette âgée de 6 ou 7 ans, je suis forcé, le cœur léger, de rire et dire c'est une chance qu'elle est petite fille, car les petites filles grandissent chaque jour. C'est une chance qu'elle est petite fille, elle trouve très vite de si charmants contours. Leurs yeux pleins de candeur et d'innocence un jour s'embrasent et vous terrassent sans défense. C'est une chance qui est des petites filles. Merci mon Dieu de fabriquer de jeunes demoiselles. Où seraient les petits garçons sans elles? C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance qui est des petites filles.
L'influence que la France put exercer par ses films sur l'art américain est aussi vieille que le cinéma lui-même. Mais cette présence connut en 60 ans bien des vicissitudes. Des sursauts d'indépendance, de guerre, des courants contraires à remonter après des absences forcées, des concurrences redoutables. L'histoire des relations cinématographiques franco-américaines, c'est au fond l'histoire d'un grand amour. Ce flux et ce reflux sans cesse renouvelés, demandons à quelqu'un qui en a suivi le mouvement depuis 20 ans de nous en parler. Madame Kira Appel, de passage à Paris, est journaliste à Hollywood depuis 1940. Elle fut présidente de la presse étrangère dans la grande capitale du cinéma, où elle est la correspondante de quotidiens et magazines français.
Est-ce que le nouveau cinéma français, qui est né il y a 4 ou 5 ans environ, a, à votre avis, une influence sur le cinéma et la production américaine actuelle ?
Ça les intéresse beaucoup, mais plusieurs d'entre eux, pourtant, n'ont pas l'air d'avoir compris la nouvelle vague, parce qu'ils m'ont dit que c'est simplement des films bien faits qui pouvaient être faits à n'importe quelle époque et qui n'ont pas remarqué pourquoi ça s'appelle la nouvelle vague.
Quel film représentatif de cette nouvelle vague a eu le plus de succès aux États-Unis?
400 coups, sans aucun doute, parce que tout le monde est allé le voir. Il n'y a presque personne dans le cinéma américain qui ne l'a pas vu.
Est-ce qu'il y a des acteurs français qui sont particulièrement appréciés en Amérique?
Eh bien, il y a une, c'est Brigitte Bardot, qui il voudrait beaucoup la voir là-bas. Et c'est assez curieux parce que avec ayant le type tout à fait différent de Marilyn Monroe, elle a eu un grand prestige près du public américain. Et à cause de ça, même plusieurs producteurs et metteurs en scène essayent de chercher à travers l'Amérique et même à travers le monde une fille qui ressemblerait à Brigitte Bardot.
Et en dehors du cinéma, est-ce que le type féminin Brigitte Bardot a une influence sur le comportement et la beauté des Américaines dans la vie, dans la rue?
Non, ils l'admirent tous beaucoup, mais il reste plutôt le type tout de même de Marilyn Monroe et Jane Mansfield.
Vous êtes à Hollywood depuis 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression, depuis cette époque, que l'importance, l'influence et la vogue du cinéma français est en progression ou au contraire en régression?
Je dirais qu'elle est en progression. Tout de suite après la guerre, le film italien était très très en vogue, en déprimant de films français. À l'heure actuelle, il semble un peu moins intéresser les Américains. Et la seule concurrence que je dirais qui existe à l'heure actuelle pour le film français, c'est le film suédois. Surtout Ingmar Bergman, qui est vraiment un des hommes les plus populaires en Amérique et qui essaie de l'avoir. Et grâce à lui, plusieurs films suédois sont projetés à l'écran à travers l'Amérique parce qu'ils ont l'intérêt. Mais le film français, actuellement, est très, très intéressant pour les Américains.
Merveilleuse rencontre. Au voyage inaugural du paquebot France, qui vogue maintenant vers New York, coïncide la présentation imminente à l'Opéra du film Lafayette que vient de réaliser Jean Dréville. Voilà, bien avant l'invention du cinéma, la manifestation la plus émouvante de la présence française dans ce pays où, à la place de Hollywood et de Beverly Hills, il y avait alors le désert et où les plus grandes vedettes du monde n'étaient même pas encore un frisson dans l'œil de leur arrière-grand-père. Des films comme La Belle et la Bête ou Orphée ont passé avec succès aux États-Unis et Le sang d'un poète, que Jean Cocteau réalisa en 1931, fut projeté pendant de longues années dans une salle de New York. Laissons maintenant la parole à l'auteur du Testament d'Orphée. Laissons à Jean Cocteau le soin de parler, d'un point de vue plus général, de cette résonance que le style cinématographique et poétique français trouve dans le cœur des Américains.
Ce n'est pas sans surprise que j'ai vu naître une minorité majoritaire. Vous savez qu'à notre époque, certaines minorités veulent se répandre comme des majorités, et des majorités veulent donner leur opinion comme jadis les minorités. Et l'exemple de cette minorité majorité se produit surtout en Amérique, où par exemple Le sang d'un poète, qui a été fait pour quelques personnes, se trouve un considérable public exceptionnel. Voilà presque 20 ans que Le sang d'un poète passe dans la même salle. Ce qui est étrange, c'est presque une des plus longues exclusivités connues. Vous me direz qu'il y a eu bascule et que l'art dit révolutionnaire est devenu l'art officiel, au point que le marché des marchands de tableaux, cherche à relever la cote de toile académique du Salon des artistes français et considère comme maudite les peintures que refusait l'art nouveau des impressionnistes. Le film doit obtenir une réussite immédiate et de la sorte éviter les ruines qui résultent de la vitesse vertigineuse avec laquelle les œuvres se suivent et prennent la place les unes des autres. C'est ce qui nous a valu ce paradoxe dont toute la gloire revient à l'Amérique. À savoir que le film à succès quitte les écrans après son feu de joie et de paille, alors qu'un vaste public jeune, un public de l'ombre, pas du tout le public sur lequel on met l'éclairage et à qui on reproche de s'amuser, de danser le twist. Cette jeunesse a en somme bien raison, puisqu'on ne lui donne pas de lendemain.
Celle de la fureur de vivre.
C'est ça, n'est-ce pas? Peu à peu formé par les clubs et les cinémathèques, remet les choses en place et donne longue vie à des films qui paraissaient, comme La Rose du Poète, devoir ne durer qu'un seul matin. L'Amérique nous a donné, et nous donne, et nous donnera encore des merveilles cinématographiques, et toujours sa liberté éclairant le monde, la liberté américaine éclairera ce qui lui arrive de chez nous et qui ne cherche pas à imiter ce qui nous vient de chez elle.
Maintenant, c'est à une séance de cinéma pour les ondes que nous allons vous convier. Séance au cours de laquelle vous pourrez entendre les extraits, dans sa version synchronisée, de « Ma femme est une sorcière ». Ce film montre que l'esprit français, dans ce qu'il a de plus léger et de plus délié, a su trouver sa place dans la puissante forteresse de Hollywood. C'est en 1942 que René Clair réalisa à Hollywood son deuxième film américain « I Married a Witch », que l'on appela en France « Ma femme est une sorcière ». Le scénario de Robert Pyroche et Mac Connelly est tiré d'une nouvelle de Sean Smith. Les rôles principaux sont joués par Veronica Lake, qui était alors cover girl et venait de lancer la mode de la longue mèche de cheveux retombant sur la moitié du visage. Inconnue au cinéma, on lui confia le rôle de Jennifer. Frédéric March et Wallace Woolley, Cécile Kellaway, Daniel, le père de Jennifer, et une autre actrice peu connue à l'époque et qui depuis a fait son chemin, Suzanne Heward, incarne Estelle Patterson, la fiancée de Wallace. La direction musicale est de Roy Webb.
Qu'ainsi soit châtié tout magicien et sorcier ayant du commerce avec les puissances des ténèbres et qui userait de maléfices sur le territoire de la ville de Roxford. Le livre des exorcismes, Alice. Que par la grâce divine, tous ceux de son espèce soient brisés aux flammes éternelles et ne puissent jamais reparaître sur le territoire de la ville de Roxford.
À quoi songes-tu, Jonathan ?
Quoi ?
Douterais-tu que ce soit une sorcière ?
Certainement, je ne l'aurais jamais dénoncé, si je n'en avais été sûr.
Et son père ?
Sans le moindre doute, c'est bien un sorcier. Maman, tu ne pourrais douter si tu savais ce que j'ai vu.
Nous avons vu tous les deux nos vaches devenir roses et bleues, et notre chèvre danser le menuet.
Mais tout ça, ce n'est rien, j'ai vu Jennifer.
Jennifer ?
C'est elle qui m'a dit qu'elle s'appelait ainsi quand elle me tenait dans la grange. Elle était jeune et blonde et tellement belle. Plus belle qu'aucune des femmes que j'ai jamais vues.
Tu n'as pas raconté ça au juge.
Parce que je n'aurais jamais su décrire sa beauté.
Que s'est-il passé dans la grange à foin ?
Elle a approché ses longues tresses tout contre mon visage et a murmuré. Jonathan voulait. Jonathan, c'est toi qui m'as dénoncé. Je me vengerai et je te punirai. Ainsi que tes enfants et les enfants de tes enfants. Vous serez frappés tous de la même malédiction.
Cela se passait au XVIIe siècle, à l'époque où, en Nouvelle-Angleterre, on brûlait encore les sorcières. Papa Daniel et sa fille Jennifer, dénoncés par le puritain Jonathan Woolley, subissent donc le supplice du bûcher sur l'emplacement duquel un chêne est planté. L'âme de Jennifer et de son père se trouve ainsi enfermée dans l'arbre. Pour combien de siècles, Dieu seul le sait, les chênes vivent très longtemps. Or, un jour, 270 ans plus tard, un orage terrible éclate. L'énorme tronc du chêne foudroyé s'ouvre, libérant sous forme de feu follet les âmes de la sorcière et de son père.
Où suis-je ? Qu'est-il arrivé ?
Un miracle ! Un miracle du diable qui nous rend la liberté ! Enfin.
Qui parle ?
C'est moi, mon père.
Mais tu es désincarné.
Toi aussi, Jennifer. Nos corps ne sont plus que fumée, fumée magique. Mais notre pouvoir diabolique a survécu.
Nous allons nous amuser à embêter les humains.
Pour commencer, nous allons transformer le champ de blé en champ de luzerne. Ce sera un bon exercice pour nous faire la main.
Regarde, papa, le champ de blé n'existe plus.
Évidemment, il faut s'attendre à trouver quelques changements après 270 ans.
Nous sommes restés si longtemps dans ce chêne.
Oui, j'ai compté les cercles à l'intérieur du tronc.
Oh, regarde, on a construit une nouvelle maison. Comme les fenêtres sont éclairées, est-ce qu'il y a le feu ?
Pas encore.
Et voici Daniel et Jennifer partis à la conquête d'une vie nouvelle. Les deux petites fumées flottent maintenant dans les rues de la ville et parviennent devant la belle demeure de M. Patterson, qui va précisément marier sa fille Estelle avec M. Wallace Woolley, descendant du vieux Jonathan et jeune politicien de grand avenir. Il est candidat à l'élection de gouverneur de son état. Ce soir, les Patterson donnent une grande réception en l'honneur du mariage de leur fille. Pour Jennifer et son père, que de transformations dans le monde depuis 270 ans. Mais ils aperçoivent dans le parc deux amoureux qui s'embrassent.
Ah, voilà quelque chose au moins qui n'a pas changé depuis 270 ans.
N'en regarde pas ça, pensons à nos affaires.
Ce serait amusant d'avoir des lèvres. Des lèvres pour murmurer des mensonges, pour embrasser un homme et le faire souffrir. Papa, tu ne veux pas me donner une bouche, et des yeux, et des cheveux?
Attention, voilà quelqu'un! Vite, fais comme moi! Ces bouteilles, là, cachons-nous dedans! Vite, 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 vite,
vite! Tu es confortablement installée, Jennifer.
C'est plein de bulles là-dedans, ça chatouille!
Ma bouteille a un parfum de vieux rhum.
La vie n'est pas très gaie dans la bouteille où se sont réfugiés les feux follets, seule apparence concrète pour le moment de la jeune sorcière et de papa Daniel. Et bientôt, l'âme de Jennifer se prend à rêver.
Papa, suppose qu'un homme tombe amoureux d'une sorcière, de moi par exemple. Il ne pourrait pas m'épouser.
Oh, pardon. J'ai besoin de prendre l'air. Pour ce soir, je boirai bien. Demain, je serai sobre. Oh, sortons d'ici. Allons faire une petite promenade.
Valet.
Papa, donne-moi un corps.
Oh, non. Tu as eu assez d'ennuis comme ça avec le dernier.
Tu dis si ça parce que tu ne saurais pas comment t'y prendre.
Tu crois? Mais il me suffirait d'allumer une petite flambée. Ton corps précédent a été détruit par la flamme. Ton nouveau doit logiquement naître de la flamme.
Prouve-le-moi. Tiens, brûle cette grande bâtisse.
Pilgrim Hotel, hôtel des pèlerins. Ce serait amusant d'incendier un nid de pèlerins. C'est bon, je veux bien. Maramoura fou la foulant. Fume, flamme, siffle, flamme. P-I-L
G-E-I-N-H-O-T-E-L Au revoir, papa.
Au revoir, Jennifer. Et de bon passage.
Et voici Jennifer à cheval sur un manche à balai, lancée dans une vie nouvelle. Mais d'abord, son père va montrer de quel bois il se chauffe. On l'a brûlé, il se vengera des hommes lui aussi par le feu. D'abord, incendions l'hôtel Pilgrim, le plus grand palace de la ville. Excellente occasion pour Jennifer d'attirer dans ses filets ce petit Wallace Woolley, qui est d'ailleurs, elle s'en est fort bien aperçue, très beau garçon. Tandis que l'hôtel brûlait, Wally entendit une voix de femme sortir du brasier, se jeta dans les flammes et parvint à sauver Jennifer, qui d'ailleurs ne risquait pas grand-chose. Mais comment l'aurait-il su? Jennifer s'échappe de l'hôpital où on l'a transportée, et quand Wallace rentre chez lui le soir...
Bonjour, chérie. J'ai cru que vous ne vous débarrasseriez jamais de...
Qu'est-ce que vous faites ici?
Je vous attendais, voyons.
Mais, et l'hôpital?
Oh, je l'ai quitté, c'était triste.
Mais comment êtes-vous venu chez moi?
Vous ne le croiriez pas si je vous le disais.
Que vais-je faire de vous maintenant?
Considérez-moi comme une vieille amie de la famille.
Mais enfin, je ne vous ai jamais vue.
Approchez, Wally, et dites-moi, sincèrement, je ne vous plais pas.
Ce n'est pas la question, aucun rapport y a-t-il?
Suis-je belle?
Oui, oui, vous êtes belle.
Serrez mes doigts encore.
Oh, du calme, je sais, vous avez eu une affreuse émotion.
J'en ai une bien douce à présent.
Vous avez une main très élégante. Alors je la serre et je vous dis bonsoir.
Oh, votre main est chaude.
Oui, mais la vôtre est glacée. Oui, bonsoir.
Gardez ma main dans la vôtre un moment. Attendez qu'elle se réchauffe un peu.
Oui, ça va, ça va. Oui, c'est amusant ce grand chapeau, hein?
Oui.
C'est un ancêtre à moi.
Je l'aurais parié. Jonathan Woolley. Il se serait montré plus hospitalier.
Oh, ce n'est pas sûr. Mais j'ai un travail fou demain. Et disons-nous bonsoir, n'est-ce pas?
Oh, serrez mes doigts encore.
Je sens de sérieux embêtements qui se préparent.
Vraiment?
Ah non, ça, ce n'est pas une solution. Rester chez moi la nuit, ce serait incorrect et dangereux.
Oh, j'adore qu'on me résiste, Wally.
Ah bon? Alors vous savez maintenant ce que je vais vous faire?
Oui.
Levez-vous, je vous prie.
Où voulez-vous m'emmener, Wally?
Faire un tour dans la rue. Je vais vous donner un peu d'argent et comme ça vous pourrez retourner d'où vous venez.
Non, pas encore.
Oh si, et à l'instant.
Quelle sensation délicieuse. C'est aussi agréable que de voler.
Jennifer s'est installée dans la maison de M. Woolley, mais celui-ci ne se laisse pas prendre facilement aux manigances de la jolie sorcière. Le lendemain, Wally va rejoindre sa fiancée au grand dépit de Jennifer.
Oh, 2 heures, ça ne laisse pas beaucoup de temps, diable. Je voudrais que papa soit ici.
Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas?
Oh, bonjour, papa. J'aurais grand besoin de tes conseils. Il résiste plus que je n'aurais cru et je n'arrive pas à me faire aimer de lui.
Tu n'es qu'une petite dalle. Je devais être ivre quand je t'ai confié un corps.
Oh, inutile de faire tant de fumée pour ça.
Comment as-tu préparé ton filtre?
Mon quoi?
Ton filtre d'amour. Tu lui en as donné un à boire, je suppose.
Non. J'ai cru que ce ne serait pas honnête.
Es-tu une sorcière ou une femme? Prépare un filtre d'amour tout de suite. Tu te rappelles l'incantation? Écoute.
Exerce-y tes ravages.
D'un lien d'amour bien fermé, tiens mon âme en prisonnier.
Maintenant laisse-le refroidir.
Quel goût aura ce filtre?
Aucun, ce sera comme de l'eau fraîche. Et ça va l'incendier ton wallet roulé.
Et je le traiterai comme un esclave. Je le ferai souffrir dans son cœur et dans son corps.
À propos de corps, j'ai bien envie de me matérialiser moi aussi. Il va falloir que j'incendie encore une maison pour ça.
D'accord, mais pas celle-ci. J'ai une bien meilleure idée. La maison où il est allé. Ça va le forcer à revenir tout de suite.
Excellente idée. Bonne chance, Jennifer.
Ça commence à refroidir. Ah, nous allons voir si tu me résisteras cette fois. Je suis prête, maître Woolley.
Nouveau jeu pour Papa Daniel que d'incendier la maison où l'on était justement en train d'interviewer Wally sur son sauvetage héroïque de la veille. Cependant, Jennifer ne désarme pas. Elle prépare le filtre qui va rendre Wally amoureux d'elle. Mais ayant été assommée par la chute d'un cadre, c'est à elle que l'on fait boire le filtre magique. Quand elle revient à elle, il est trop tard.
Oh, je me sens toute chaude.
Hein?
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, ce tableau est tombé. Avez-vous mal à la tête?
Mal à la tête?
Oui.
Non. C'est plutôt le cœur. Il me paraît léger.
Là, ne dites rien.
Oh, mais il faut que je parle, que je vous dise ce que j'éprouve. Oh, Wally, comme vous êtes beau.
Georges!
Serrez mes doigts.
Oh, ne recommençons pas.
Oh, mon chéri.
Laissez Wally tranquille.
Georges, cette fois, c'est peut-être sérieux. Elle a reçu un coup violent sur la tête, ce portrait.
Ne t'excuse pas, tu étais en état de légitime défense.
Est-ce que vous avez bu, Wally?
Moi, je n'ai rien bu, rien du tout.
De quoi parle-t-elle?
Oh, d'un verre d'eau que je lui ai fait boire pour la faire revenir à elle.
Vous? C'est moi qui ai bu?
Oui.
Il ne faut jamais faire boire de force une personne sans connaissance. Ça peut avoir de graves conséquences.
Oh!
Tu vois la réaction? Allez, tu vas être en retard pour ton mariage.
Qu'est-ce qu'on va vous faire?
Bouclons-la dans la chambre.
Mais voyons, Georges.
Dépêche-toi, on va te marier par contumace.
Cette fois, Wally est parti pour se marier. Et c'est encore vers son père que Jennifer se tourne pour sauver la situation.
Qu'est-ce que tu dis de mon corps d'emprunt? Ni trop vieux, ni trop jeune. L'ennui, c'est que j'ai oublié la formule pour se vêtir. J'ai emprunté ce drap au lit d'une ambulance. Mais au fait, et ta tisane, tu l'as administrée?
Oui. C'est que ça ne marche pas du tout comme je le pensais.
Quoi? Mais d'ordinaire, ce filtre est infaillible.
Oh, il l'est. Mais... c'est moi qui l'ai bu.
Corne diable. Et alors, tu l'aimes?
Oh oui, je l'adore. Mais il va se marier avec une autre, à cause du sort que j'ai jeté sur les Woolley. Qu'est-ce que tu crois, si je lui expliquais ce qui est arrivé?
Mais ce serait la pire des choses. Raconter à un mortel que tu es sorcière et ton pouvoir n'agira plus.
Alors faisons quelque chose, empêche-le de se marier. Empêche-le, dis, veux-tu?
Laisse-moi réfléchir.
Écoute, fais qu'il m'aime lui aussi. Si tu veux, ce te sera très facile.
Oui.
Ce problème est vraiment très simple. Laisse, je m'en occuperai.
Oh, tu es gentil, merci.
Mais surtout, laisse-moi faire.
Je te le promets.
Bien. Je fume encore, je ne suis pas tout à fait refroidi. Jennifer, tu as des vêtements de Messire Woolley à me prêter? Nous irons à son mariage.
À ce mariage, on en voit de belles. Jennifer et son père se livrent aux plus diaboliques manigances, multiplient les sortilèges qui conduisent d'ailleurs Papa Daniel en prison. Bref, tout va de telle sorte que Wally est encore avec Jennifer au premier étage du château des Patterson, tandis qu'Estelle et son père, furieux tous les deux, attendent toujours le marié.
Wally! Wally, n'ayez pas peur, je vous défendrai, je l'empêcherai de vous faire du mal, je suis avec vous.
Ah, je n'en doute pas.
Mais je vous le jure, hier soir j'étais votre ennemi, mais aujourd'hui tout a changé. Je vous aime, je vous aimerai toujours, oh Wally, je voudrais mourir pour vous.
Je ne vous en demande pas tant.
Hé, hey, on t'attend.
Au revoir.
Mais où allez-vous, chérie?
Vous devriez le savoir à mon mariage.
Mais je croyais que maintenant, après tout ce que j'ai fait pour vous...
Je vous remercie de votre obligeance, malgré ça, je vais descendre et je vais me marier.
Oui, enfin, vous le croyez.
Oh, cette fois, vas-y tout seul, je me charge d'elle. Allons, dépêchons et poussons-en une bonne fois.
On me le verra. Est-ce que je suis bien?
Peu importe, viens. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez cette fois?
C'est Georges qui a l'alliance. Un instant, je vais aller voir ce qu'il fait.
Voilà!
Voulez-vous revenir ici? Mais enfin, c'est inimaginable.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains jours où tout semble aller mal?
Wallace!
Il est trop tard. Georges. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle mourrait pour moi. Oh, ma chérie.
Enfin!
Quoi?
Oh! Cette fois, je n'en peux plus!
Voyons, Estelle! Mais enfin, tu ne peux pas faire ça! Sauf au scandale qui rejaillirait sur nous!
Il y a un petit malentendu. Si vous voulez me donner 2 minutes...
Oh, je vous donne 10 secondes. 10 secondes pour sortir d'ici tout le monde. Mais nous n'en demandons même pas tant.
Et moi, je vous donne le conseil de quitter le pays.
Estelle, je suis bouleversé.
Sortez.
Écoutez, laissez-moi expliquer. Hier soir, n'est-ce pas... Voilà, elle a passé la nuit. Tout bien considéré, je crois qu'il est préférable que nous nous en allions.
Monsieur Patterson.
Vous verrez ce soir ce que je vais imprimer sur vous. Non seulement j'empêcherai votre élection, mais encore il ne faudra pas vous étonner si les électeurs vous échappent. Vous serez roulé dans le goudron et la plume, ça je m'en charge. Badigeonner de goudron et roulé dans la plume.
Oh, l'heure est douce.
Ah, vous, la ferme.
Le puissant Monsieur Patterson ayant retiré son appui à Wallace Woolley, l'élection de celui-ci au poste de gouverneur semble définitivement compromise. Mais pour l'instant, Wally n'en a cure. Ayant enfin compris qu'il aime Jennifer, il abandonne Estelle, s'enfuit avec la jolie sorcière et trouve dans un charmant village un officier d'état civil qui les marie. Le soir, dans l'hostellerie où ils ont choisi de passer leur nuit de noces, Jennifer a fort mauvaise conscience en face de cet homme qu'elle aime et qui ignore toujours quelle sorte de femme il vient d'épouser.
Allons, bonsoir, madame. Je suis sûre que vous ferez bon ménage. Il est charmant, votre mari. Je souhaite que tous vos fils tiennent de lui. Et quant à vos filles, je souhaite naturellement qu'elles vous ressemblent toutes.
Radamant, allume-toi. Oh. Wally.
Quoi, chérie?
Avez-vous remarqué comment le feu s'est allumé?
Qui? Moi? Oh, je ne vois rien dans cette chambre que vous.
Chérie.
Hein?
Vous aimeriez avoir des enfants?
Oui, des filles. Et je tiens à ce qu'elles soient exactement comme vous.
Oh!
Quoi?
Il est grand temps que je parle, alors. Peut-être me feriez-vous des reproches plus tard.
Ah, une confession?
Oui, Wally.
Mais je ne suis pas ce qu'on appelle un saint, moi non plus. Nous ferons la comparaison demain.
Non, maintenant, c'est très urgent. Oh, c'est que je ne sais comment vous dire.
Alors, ne dites rien.
Wally. Quand nous nous sommes connus, cette rencontre ne vous a pas paru bizarre?
J'ai cru faire un doux rêve.
J'avais usé d'un charme.
Ça, c'était flagrant.
Vous voyez bien.
Chut, chut. Il est déjà tard.
Mais il faut que vous sachiez pourtant qui je suis.
Soit. Alors, qu'est-ce que vous êtes?
Je suis une sorcière.
Une sorcière? Il y a longtemps que je le sais, voyons.
Vous dites?
Bien sûr, vous m'avez ensorcelé dès votre première apparition.
Oui, et ça ne vous fait rien que votre femme soit une sorcière?
J'adore ça.
Oh, je tâcherai d'être une épouse exemplaire, je n'userai de sortilège que pour défendre notre amour.
Que feriez-vous, par exemple?
Eh bien, je vous ferai triompher aux élections demain.
Oh, il faudrait être sorcière pour le faire.
J'essaierai, j'espère réussir.
Bien, bien.
C'est que j'ai mes titres de noblesse. Je descends d'une très bonne famille de sorciers. Mes aïeux exerçaient à Pompéi.
Vous avez organisé l'éruption?
Mon père l'a faite. Il a joué un grand rôle dans la chute de l'Empire romain. Lui et ses frères.
Là, parlons maintenant de choses sérieuses. Voyons, quel côté du lit préférez-vous? Gauche ou droit, chérie?
Vous ne me croyez pas.
Si, si.
Wally, essayez de comprendre. Il y a 270 ans déjà...
Oh, s'il y a si longtemps, alors ça attendra bien à demain.
Wally, écoutez, il y a 270 ans... Oh, chérie, vous n'écoutez pas.
Si, si, j'écoute.
Donc, il y a 270 ans, je... Oh, je te dirai ça demain.
Le pouvoir des sorciers est illimité. Et c'est un jeu pour Daniel et sa fille de faire élire Wallace gouverneur. Mais papa Daniel commence à se fâcher. Sa fille est amoureuse, vraiment amoureuse, comme un être humain ordinaire, et pour comble, du descendant de celui qui jadis a causé leur perte. Cela ne peut durer.
Bonsoir, mon ange. Tous mes compliments, quelle magnifique campagne électorale tu as faite pour Messire Woolley.
On laisse-le tranquille à présent.
Il ne perdra rien pour attendre. Mais pour l'instant, j'ai à corriger une fille rebelle.
Je ne fais rien de mal, je l'aime tout simplement.
Et tu lui as simplement révélé que tu es une sorcière. Alors, faut-il que je te rappelle le châtiment que je t'avais promis de t'infliger? Tu reprendras le chemin de ton chêne à minuit. Et jusqu'à ce que la race humaine ait disparu, tu y resteras prisonnière. C'est une peine légère quand on considère l'horreur de la faute.
Oui, mais si je refuse d'y retourner?
C'est un ordre, tu obéiras.
Je suis encore sorcière.
Non, ma chérie, ton cœur ne t'appartient plus maintenant, alors tu deviens une mortelle. Et tant que tu conserveras cette périssable enveloppe charnelle, tu resteras une simple mortelle.
Je me rappelle les formules magiques que j'ai apprises. Éteins-toi par radamante. Allô?
Tu vois, ton pouvoir surnaturel est mort, le mien demeure intact. Feu, éteins-toi. Va te préparer. Mieux vaut en finir rapidement. Et minuit approche.
Wally et Jennifer veulent s'enfuir. Ils sautent dans un taxi, mais ils ne se sont pas aperçus que le chauffeur n'est autre que le vieux papa Daniel qui, transformant la voiture en taxi volant, conduit sa fille Wally, peu avant minuit, au pied du chêne qu'ils vont réintégrer pour l'éternité.
Ne vous occupez pas de moi, Messire Woolley. J'ai l'habitude du feu. Viens, Jennifer. Je préfère rentrer avec toi dans notre chaîne. L'humanité actuelle m'écœure.
Il est inutile de résister. Il doit en être ainsi.
Jennifer, mais qu'est-ce que tu dis?
Va-t'en, Wally, je t'en prie. Minuit. Adieu, mon amour. Et plus tard, souviens-toi de moi comme d'une créature ordinaire.
Il se souviendra. C'est ça, son châtiment.
Je t'ai aimé plus que la vie, Wally. Pendant toute l'éternité, je m'en souviendrai.
Non, tu ne conserveras aucun souvenir de tes amours terrestres. Voilà quelle sera ta punition à toi, Jennifer.
Je n'oublierai jamais. Je tiens à mes souvenirs et je les défendrai. L'amour vaincra les forces maléfiques. Le souvenir bercera mon chagrin. J'entendrai le son de ta voix. Je reverrai tes yeux. Je sentirai l'étreinte de tes bras. La caresse de tes lèvres. Adieu, Wally. Adieu, mon amour. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais. Adieu. Adieu. Adieu.
Il ne sera pas dit que la pauvre Jennifer devra renoncer à cet amour terrestre. Avec des ruses de sorcière, elle enferme la petite fumée qui matérialise son père dans une bouteille de whisky et elle ressuscite dans les bras de Wally. Ils auront beaucoup d'enfants.
Wally, l'amour a vaincu les forces maléfiques.
Pour ce soir, je boirai, boirai bien. Demain, je serai sobre.
Ah non! Wally, tous nos ennuis sont finis. C'est-à-dire pour le présent.
Cette fois, ça passe les bornes, j'en ai assez. Vous êtes absolument insupportable, mademoiselle. Et je vais le dire tout de suite à votre papa.
Monsieur Wally, j'ai servi dans votre famille pendant 38 ans, mais j'en ai assez.
Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite?
Il y a que je ne peux pas venir à bout de cet enfant.
Jennifer, je t'ai déjà défendu de jouer avec ce balai, m'as-tu comprise?
Pourquoi?
Alors, j'ai bien peur que nous n'ayons quelques ennuis avec elle plus tard.
Oh, mais c'est impossible! Je l'espère.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Il faut nous séparer.
Dans la série des émissions consacrées à la présence française aux États-Unis et diffusée à l'occasion du voyage inaugural du paquebot France, la radiodiffusion et télévision française vient de vous présenter 60 ans de cinéma français aux États-Unis, une émission de Roger Réjean avec la collaboration de Jacqueline Adler. Vous avez pu entendre, au cours de cette émission, des interventions de Maurice Chevalier, René Clair et Jean Cocteau de l'Académie française, Kira Appel, ainsi que des extraits du film « Ma femme est une sorcière ». Musique extraite des « Innocents de Paris », « Parade d'amour », « Un Américain à Paris », « Rhapsody in Blue » et « Gigi ».
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 3 février 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.